Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. J'ai un peu d'émotion à vous dire ça aujourd'hui, puisque ce jour, ici au studio de Transistor, je suis avec Nathan pour le season finale, le dernier de la saison 1, l'épisode 25. Bonjour Nathan, j'espère que ça va.
Bonjour.
Voilà, un avis, une émotion sur ce dernier épisode, un highlight
beaucoup
de la saison.
Beaucoup de tristesse, peut-être. Dodin Bouffant va me manquer énormément. Mais
c'est vrai que c'est vrai qu'on l'embrasse, on pense à lui à chaque fois.
On pense beaucoup trop à lui, en vrai.
Oui, c'est vrai peut-être, hein, parce que le film est quand même sorti il y a 6 mois. Bon, voilà, et ben, joie de vous annoncer en tout cas que, à l'inverse de certaines séries qui auraient mérité une deuxième saison, moi, 4 ans plus tard, je ne suis toujours pas passé, je ne me suis toujours pas remis de la non-reconduction de I Am Not Okay With This. Nous, on est reconduit pour une saison 2 dès l'automne prochain, voilà, donc on vous attend évidemment au rendez-vous. Et pour ce dernier épisode, une dernière chronique de Nathan sur un film qui est sorti la semaine dernière, Challengers.
Oui, alors Challengers, c'est la nouvelle réalisation de Luca Guadagnino, soit Monsieur Call Me By Your Name, rien que ça, qui n'est pas un film dont je suis particulièrement fan, je dois dire, je vais sans doute pas me faire que des copains, mais qui est sans doute malgré tout son plus grand succès public et critique, et qui avait énormément de qualité, il faut le dire. Et aujourd'hui, Luca Guadagnino donc, nous revient avec ce projet que, je dois dire, j'attendais depuis très très longtemps. Ça fait vraiment bien 3 ans que Challengers est le film que j'attends le plus au cinéma, et ce pour sa distribution. Ou plutôt, allez, si je dois être très honnête, un membre de sa distribution, mais aussi pour son sujet qui attisait ma curiosité. Le sujet, donc, bon, c'est un peu compliqué, alors accrochez-vous bien. Art et Patrick sont deux joueurs de tennis qui s'affrontent en finale d'un tournoi mineur de Challenger, match qui va durer tout le film, mais entrecoupé de flashbacks retraçant leur trajectoire de 15 ans auparavant jusqu'à la nuit précédant la rencontre. Patrick est un joueur médiocre qui n'a jamais rien gagné en pro, là où Art, lui, est l'un des tennismen les plus en vue du moment, ayant remporté plusieurs titres du Grand Chelem, jusque néanmoins à une blessure qui a coupé court à son ascension et le rend désormais plus proche de la fin de carrière que de son apogée. Art a pour coach Tashi, sa femme, et elle-même ancien espoir du tennis dans sa jeunesse avant qu'une grave blessure ne la tienne éloignée des terrains et mette fin à ses espoirs de devenir professionnel. Mais des années auparavant, c'est là que ça devient compliqué, Tashi a déjà eu une relation avec Patrick, qui était à l'époque, il se trouve, le meilleur ami d'Art, tous deux étant inséparables depuis l'académie de leur club de tennis, et, retournement de situation, à l'époque, c'est bien Patrick, celui qui deviendra plus ou moins un raté, qui est le plus doué et le plus prometteur des deux. Bref, le film à coups de flashbacks, de narrations enchâssées et de dialogues au cordeau va tisser les relations qui ont uni ces trois personnages, entre amour et amitié, par le passé, celles qui subsistent aujourd'hui entre remords et jalousie, et les tensions qui les séparent. C'est donc d'abord un triangle amoureux, et un triangle amoureux dont la complexité est à un niveau rarement atteint au cinéma, hein, franchement. En tant que spectateur, on prend un malin plaisir à décortiquer vraiment les rapports entre ces trois protagonistes. On se prend à les adorer, puis les détester 5 minutes plus tard, les uns et les autres. Et surtout, on déchante au fur et à mesure qu'on prend la mesure d'à quel point ces trois destins sont intriqués. C'est un film sur l'amour, sur l'absence d'amour aussi, mais c'est quelque chose dont il faudrait discuter, sur le désir, sur l'amitié, la jalousie, bref. Le film esquisse énormément de choses et il le fait avec une justesse vraiment imparable, sans jamais rester en surface ni tomber dans la facilité de certains poncifs sur le triangle amoureux. Non, on est vraiment face ici à un film résolument moderne, original, novateur. Enfin, c'est un vrai jeu de dupes à la fin duquel on tombe des nues de réaliser que les autres spectateurs ne sont pas d'accord avec notre interprétation, ne partagent pas notre adulation pour tel personnage ou notre aversion pour tel autre. Enfin, hier encore, j'étais en voiture avec une amie et on a passé 2 heures, littéralement, à débattre sur lequel des deux personnages masculins était le meilleur ou le moins pire, et sans parvenir à nous départager. C'est un film qui est vraiment diablement bien écrit de ce point de vue-là. Hein. Je ne sais pas combien de temps Justin Kuritzkes, le scénariste, qui signe là l'un de ses tout premiers scénarios, a mis pour l'écrire, mais c'est hyper impressionnant. Il y a des scènes de dialogue qui sont vraiment mémorables et il y a énormément de rappels. Vous savez, ces moments où le film plante une graine dans la tête du spectateur au début du film pour la laisser germer, pousser et enfin récolter ses fruits à la fin en réutilisant ce qui a été dit plus tôt et qui en général procure des sensations du style « mais non !» et crée de savoureux moments de « oh !» collectif dans les salles de cinéma. Bref, un plaisir. Le scénario est d'une richesse et d'une subtilité assez implacable. Et la scène de fin, notamment, est un tour de force. J'ai vraiment passé 2 heures à me demander comment il allait bien pouvoir s'en sortir et conclure le film. Et finalement, il s'en sort un peu par une pirouette, mais à laquelle je pense même pas qu'on puisse reprocher une forme de facilité. Non, c'est vraiment juste hyper malin et assez jouissif dans la mise en scène, et ça rend honneur au propos du film. Alors, je parle de mise en scène car il faut dire que sur ce point-là non plus, le film ne manque pas de trouvailles. C'est très simple, moi c'est le genre de film que j'adore voir au cinéma et qui me conquiert immédiatement parce que c'est tellement savoureux, je trouve, de voir un réalisateur se délecter de ce qu'il fait. Alors pas dans une démarche de type onanisme intellectuel, mais le voir jouer avec sa caméra, tenter des choses, ne reculer devant aucune initiative. Bah, typiquement, il y a un plan absolument dingue en caméra subjective d'une balle de tennis. Oui, la caméra est brinque-ballée, secouée dans tous les sens d'une raquette à l'autre, et bouscule ainsi le spectateur, son point de vue et ses convictions d'un camp à l'autre, d'un personnage à l'autre, retranscrivant les nombreuses bascules d'un côté à l'autre pendant tout le film. Et je sais pas, juste m'imaginer le réalisateur se dire « Et si on faisait un plan du point de vue de la balle de tennis ?» Ne pas se poser de questions et juste le faire, bah, ça me ravit. Et au-delà de ça, la mise en scène joue aussi avec énormément de codes du tennis et de sa consommation, vraiment en termes de films sur le sport et sur le tennis. Bon, on est loin d'un match point où le tennis était vraiment plus un prétexte et pas central, et on est loin aussi, bon, d'un autre point de vue, parce que Match Point est évidemment un excellent film, mais on est loin également de 5e set, le film avec Alex Lutz sur le tennis, qui était tout simplement un match de tennis projeté sur grand écran, donc pas grand intérêt. Sympa quand on aime le tennis, hein, paradoxalement une des meilleures séances de ma vie, mais franchement pas intéressant d'un point de vue cinématographique. Ici, au contraire, il y a énormément de trouvailles. Par exemple, les plans sur le public pendant les matchs offrent la possibilité de mettre en valeur tel ou tel personnage ou telle relation par un décalage au niveau des regards. Quand le traditionnel hochement de tête suivant la balle, faire des allers-retours sur le terrain, vous savez, le truc qui donne aux spectateurs de Roland-Garros l'impression d'être complètement stupide, laisse place, par exemple, à un regard fixe, au contraire, de la part de Tachi pendant l'affrontement entre Art et Patrick, et où tout de suite, voilà, bah, y a quelque chose qui détonne. Et dans le même sens, le film use et abuse des ralentis. Voilà. Et c'est du coup, j'ai réalisé ça en fait après avoir proposé d'en faire une chronique. Et donc, je suis désolé, Louis, mais je vais peut-être te déconseiller de voir ce film parce qu'il y a vraiment un ralenti par scène, je pense, et des bons gros ralentis, quoi, qui durent bien 30 secondes. Je dis abuse parce que même moi, il y a un moment où ça faisait beaucoup. Luca Guadagnino trouve le moyen d'en foutre plus que dans Mission Impossible 2, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Mais c'est certainement pas fait avec le même manque d'efficacité et de subtilité. En fait, c'est tellement abusé et tellement appuyé qu'il y a une sorte de distance qui se met en place par rapport à cet effet. Il s'essouffle certes peut-être un peu dans sa capacité à exacerber la tension, dans la mesure où il y a recours de manière un peu trop mécanique à la fin du film. Mais en même temps, il y a presque une dimension ironique, car ce que j'ai pas encore dit, c'est que c'est bien sûr, vous l'aurez compris, un film sur le sport, plus précisément le tennis, mais vraiment le sport au sens large, hein, la compétition, la confrontation, le duel psychologique et physique, qui est pour le coup très bien mis en valeur par les plans au ralenti, et qui en plus renvoie au ralenti excessif et outrancier qu'on retrouve dans les diffusions de sport à la télévision. Bref, même les pseudo-bémols du film en surface sont, à bien y réfléchir, loin de n'être qu'une lubie gratuite du réalisateur, mais bien plutôt suffisamment justifié pour qu'il ne se contente pas de rester en surface. Ça, c'est donc pour les scènes où ça joue au tennis, mais il n'y a pas que ça dans le film, hein, je vous rassure, même si moi ça me plaît déjà beaucoup, et d'ailleurs je tiens à préciser que je pense que c'est pas un film qui est réservé aux aficionados du tennis. Moi j'aime bien le tennis, mais j'y étais avec quelqu'un qui en est absolument pas fan, qui aime vraiment, franchement pas ça même, si on peut le dire, et qui a vraiment énormément aimé le film. Parce qu'il n'y a pas que ça dans le film, encore une fois, les scènes plus classiques entre les personnages sont excellentes aussi, et elles suivent la même logique et le même traitement. L'amour, les relations humaines et les rapports de force entre les personnages sont traités comme un match de tennis, d'un point de vue sportif, ce qui nourrit une tension continue, bien servie aussi par la réalisation, que ce soit grâce à un montage surcuté et archi-nerveux dans certaines scènes de tension, comme celle du sauna, pour ceux qui ont vu le film, ou à des musiques techno, house, hyper à propos, qui donnent le tempo d'un film ultra énergique, complètement dynamité aussi, il faut en parler, par son casting. Parce que il y a donc cet aller-retour constant entre les relations humaines qui sont traitées comme on traite le sport et le sport lui-même qui est traité comme on traiterait des scènes de sensualité. Donc c'est hyper intéressant et c'est servi par le trio de tête. C'est vraiment à proprement parler un trio de tête qui porte le film. Il suffit de voir d'ailleurs à quel point ils sont les trois seuls personnages du film, littéralement. Si ce n'est la mère de Tachi qui fait la babysitter pendant une scène ou l'arbitre du match qui hoche la tête pendant un plan. Mais à part ça, ils sont que trois, et c'est la Sainte Trinité. Franchement, leur alchimie est vraiment fascinante, et elle se manifeste aussi bien par la tension sexuelle à couper au couteau, qui traverse tout le film, jusqu'à la sensualité des mouvements des deux joueurs pendant le match, que par, plus simplement, leur franche sympathie, en fait. Et ça paraît assez bateau, mais en même temps, c'est plus facile à dire qu'à faire pour des acteurs, et c'est par ailleurs beaucoup plus rare qu'on pourrait le penser au cinéma. Mais on y croit. On croit à leur amitié, on croit à leurs doutes, à leurs remords, à leur passé ensemble, à ce qui les a unis, à ce qui les sépare aujourd'hui. Tout ça est extrêmement juste et vrai, et franchement, je ne saurais même pas détacher un membre de ce trio de tête qui se serait illustré plus que les autres dans ce film. Bon, ok, si, d'accord, je peux. Josh O'Connor, voilà, quel monstre. Franchement, lui qu'on avait découvert en excellent Prince Charles dans The Crown, ou vu plus récemment dans la magnifique chimère d'Alice Rohrwacher, il confirme ici son statut de petit chouchou du cinéma indépendant et de mon cœur, où il s'est fait une place aux côtés de Paul Mescal. Parenthèse d'ailleurs à ce propos, j'ai appris à cette occasion qu'un film était en préparation, un film qui s'appelle The History of Sound, avec dans les deux rôles principaux, je vous le donne en mille, vous êtes bien assis, Paul Mescal et Josh O'Connor, rien que ça. Voilà, je vais fondre dans mon fauteuil au cinéma, vraiment. Littéralement, mes deux plus gros crushs au cinéma ces dernières années. Attendez-vous à une chronique dessus quand il sortira. Je préfère vous prévenir tout de suite. Ça va tellement être le film du siècle qu'il pense être. Bref. Revenons à nos moutons et à nos balles de tennis. Josh O'Connor, donc, solaire, charismatique, génial. C'est le seul personnage que j'ai jamais réussi à franchement détester à un seul moment du film. Parce que juste, il est trop fort, il est trop beau, il est génial, quoi. Enfin, je l'adore. Il suffit qu'il sourie sur un plan fixe ou au ralenti pour que je sois fan de lui. Parce que oui, je parlais des ralentis et je disais qu'il y a un moment où il s'éculait un petit peu. Et en fait, même ça, il arrive à le réinventer dans des plans qui sont aussi servis par le charisme des personnages et des acteurs et actrices. Par exemple, il y a une scène sur un parking de nuit entre Zendaya et Josh O'Connor où donc la scène est au ralenti, mais un ralenti un peu fragmenté qui... Enfin, comme si c'était cuté, et j'avais limite l'impression de quelque chose de très pictural, comme dans un dessin animé, enfin je sais pas, c'était vraiment hyper intéressant. Il y a des plans hyper beaux, voilà, faut le dire, vraiment, le chef-op a d'être ça, la photo, les lumières, et donc la mise en scène de manière plus générale sont géniales. Pour résumer, Challengers, c'est vraiment un film assez jouissif, quoi. Voilà, tout ce que je dis pourrait être résumé là-dedans. C'est jouissif dans la complexité de ses personnages, dans la finesse d'écriture de ses dialogues, dans l'énergie vive, folle que les trois actrices mettent dans leurs personnages et l'alchimie qui les unit, pour son audace de réalisation aussi, parce que franchement, voir autant de propositions de mise en scène archi-originales et casse-gueule, voire franchement foireuses sur le papier, être 100% assumé et, à mon humble avis, amplement réussi, c'est un pur bonheur de spectateur. Donc je vous encourage fortement, même toi Louis, oui, à vous y frotter.
Eh ben, c'est prévu pour moi dans la semaine. Je veux. Il est temps que je me fasse un avis en fait sur ce film. Merci beaucoup, Nathan. Challengers, pardon. C'est en salle depuis une semaine et pour longtemps encore.